Ici Jean-Dominique Leduc
et Marc Tessier. Bienvenue à Entre deux cases, édition Angoulême 2025.
Avec cette série de balados spéciales, nous vous proposons, Marc et moi, des entrevues avec différentes participantes et différents participants de la délégation québécoise, réalisées sur place, comme si vous y étiez.
Hey, bonjour tout le monde. Ben, pour la première fois, nous enregistrons à Angoulême. Woohoo!
Oui, d'ailleurs, j'espère que la qualité de son est à la hauteur de cette ville magnifique, même sous la pluie.
Puis là, on a quitté l'aéroport avec son bruit incroyable pour se retrouver dans un petit café. Puis on a une invitée spéciale aujourd'hui, Isabeau Lejambe. Bonjour Isabeau.
Salut.
Salut Isabeau. Alors, tu es à la tête de Zine de Zine. Qui une petite publication. Toi, Marc, tu connaissais déjà?
Oui, moi, j'ai tous les numéros.
Ah, le salaud.
C'est parce que c'est comme un retour à, tu sais, Fact Sheet 5, toute cette époque-là où on avait des publications qui parlaient d'autres publications puis créaient une espèce de réseautage qui est vraiment essentiel peu important. Fait qu'on dirait qu'on revient un petit peu à ça, que moi, c'est des très bonnes nouvelles.
Même que je me rappelle le premier numéro, je suis venu de le porter sur ton perron juste avant.
C'est vrai.
Juste après l'avoir imprimé.
Mais ça, c'est vraiment l'esprit Zine. On est dans l'analogue. C'est un retour, en quelque part, justement, à l'époque de la correspondance. T'sais, dans les années 70-80, avant l'avènement d'Internet, c'était ça aussi.
Ben, c'est comme ça que Julie Doucet s'est fait connaître. Comme, nous autres, si on envoyait des trucs, fait que c'est le fun. Tu faisais des échanges. C'est comme ça que, je pense, Julie a envoyé ses trucs à Menu, t'sais, à plein de gens. T'sais. Le réseautage se faisait un petit peu à travers le monde, par la poste.
Mm-hmm. Alors, comment je pourrais dire? Ce projet-là, Zine de Zine, il est né quand? Il est né de dans quel contexte? Et quelle est à la base la pulsion de ce retour-là à l'analogue et de proposer donc un zine qui propose d'autres zines, qui présente les titres actuels? Donc, comment tout ça s'est structuré?
Ben, c'est un peu une longue histoire, mais en gros, moi, je fais de la recherche à l'université sur les zines, c'est ça, depuis 2017. J'ai fait ma maîtrise à l'UQAM de 2017 à 2019, puis après, j'ai fait mon doctorat à l'Université Queen's en Ontario de 2019 à 2023. Puis, pour faire de la recherche sur les zines, il faut être en contact avec le milieu, parce que il n'y a pas d'autre moyen d'avoir accès aux publications. Donc, moi, je travaille vraiment sur souvent des gros corpus. Donc, forcément, il faut que je sois en contact avec les gens. Donc, dès avant de commencer à faire de la recherche à l'université, j'ai commencé à aller à Exposine de façon, disons, j'y allais depuis un petit bout, mais à le faire de façon plus systématique, à aller parler avec le plus de gens possible et tout. Puis, dans mes recherches sur le Québec, je me suis rendu compte que, comme tu disais, Jean-Dominique, avant, dans les années 80-90, ça se faisait beaucoup par la poste. Puis, avec le début des années 2000, il y a un tournant. C'est la création d'Exposine, entre autres, en 2002, qui fait que l'échange de zines s'est fait de plus en plus en personne dans des foires. Puis on retrouve aussi, à partir de ce moment-là, de plus en plus de zines dans des librairies. Ce qui fait que ça change la façon de faire des zines. Notamment, les zines périodiques disparaissent de plus en plus parce qu'on n'a plus besoin d'aller fidéliser un lectorat par l'abonnement ou par la périodicité.
À cause justement de ces événements, de ces points de rencontre-là.
Oui, donc les gens se connaissent de plus en plus. Ouais. Le milieu d'usine au Québec se concentre plus à Montréal aussi, ce qui n'était pas forcément le cas dans les années 70, 80 ou 90, où est-ce qu'il y avait...
Alors, Marc était là, lui, dans les années 90.
Je dirais que Montréal reste un centre névralgique tout le temps, parce qu'on dirait que tous les gens qui quittent leur village, leur ville, ils vont plus à Montréal qu'à Québec, parce que Montréal, c'est la diversité, l'ouverture, c'est d'autres cultures. Puis je pense qu'en tant qu'artiste, tu cherches ça. Mm-hmm. Fait que pour ça que Montréal, c'est quand même une place cruciale pour ça.
Oui, mais tu sais, quand on pense aux publications de BD dans les années 70, il y avait quand même du monde.
Sherbrooke. Québec.
Oui, en fait, les pôles, c'était Gatineau, Sherbrooke, Québec, Montréal, Blainville.
Donc, c'est quand même un espace géographique beaucoup plus élargi qu'aujourd'hui. Entre autres, c'est ce qui permet la périodicité.
Ouais. Mais ça reste que Montréal, c'est là que les gens qui ont toffé, ils ont resté.
Exact. Oui,
mais en même temps, dans les années 90, en tout cas dans le milieu de la bande dessinée, à Québec, il y avait Paul Bordelot qui faisait Pizza Man. Il y avait Left Town qui a lancé avec Jeff Bergeron et Philippe Gérard Tabasco.
Mm-hmm. Oui.
qui était un fanzine extraordinaire du fait que chaque numéro avait son propre format,
oui, c'est ça.
Qui correspondait au concept du numéro.
Oui, c'est ça. J'en ai un dans ma collection, c'est insupportable en fait, parce que je peux pas le ranger, il est trop long.
Mais oui, mais en même temps, je pense à Zen Zen Shit de Martin Lem qui changeait de format, qui avait toutes sortes de choses. Puis même Dirty Plot a changé de format au fil des numéros. Ouais. Fait que c'est un petit peu l'idée, c'est on change, on essaie des choses, on expérimente.
Mais donc c'est ça, moi quand je commence à faire de la recherche, c'est donc, vers la fin des années 2010, il y a Exposin, qui est vraiment le rendez-vous annuel, mais pour le restant de l'année, c'est un peu difficile de suivre les nouvelles parutions. Il y a beaucoup de gens qui font des zines spécialement pour Exposin. Souvent les gens qui vont Exposin veulent s'assurer d'avoir une publication nouvelle à chaque année. Mais il se publie aussi plein de choses, des gens qui ne vont pas nécessairement exposer ou qui ont publié des trucs, tu sais, si tu publies quelque chose en février ou en mars, puis exposer, c'est en novembre, ça se peut que tu n'en restes plus de ton zine rendu à exposer. Donc, ça faisait un petit bout que je me disais, ça serait quand même cool d'avoir un truc qui permet de suivre l'actualité des nouvelles parutions pendant toute l'année, puis pas juste à exposer. Surtout aussi qu'à exposer, tu sais, déjà, il y a beaucoup de monde. Il n'y a personne qui réussit à faire le tour puis voir tout ce qu'il y a sur les tables. Parce qu'il y a souvent au-dessus de 100, même des fois 150 exposants et exposantes. Puis aussi, à l'intérieur d'Exposin, il y a différentes scènes qui se rencontrent. T'sais, les gens qui font des zines de BD ne connaissent pas nécessairement les gens qui font des zines de poésie, même s'ils sont deux tables à côté. T'sais. Donc, l'idée aussi d'avoir un truc comme zine de zine, parce qu'il y a des critiques de zine qui suivent les nouvelles parutions, mais qui sont aussi comme pas classées par catégorie, genre ou quoi que ce soit, vraiment côte à côte. Bien, ça permet de donner de la visibilité à des zines qui n'en auraient pas autrement. C'est-à-dire que les gens qui font des zines de BD veulent peut-être lire zines de zines pour voir les nouvelles parutions en zines de BD, mais les zines de BD sont cachées au travers des zines politiques, des zines de littérature, des zines de photos.
En fait, zine de zine, c'est le point de rencontre. T'sais, dans les années 90, Marc, toi, tu étais de la scène alternative de la bande dessinée à Montréal. Donc, tu sais, le Cheval Blanc, c'est un peu un lieu... je fais un parallèle avec Zine de Zine parce que c'est un pôle, Zine de Zine, au final. Et dans ton travail, et c'est ça qui est fou, toi, tu fais un travail de recherche, le zine, dans sa nature même, c'est un objet éphémère.
Ben, je trouve ça éphémère, tu veux dire, c'est peut-être un tirage limité qui est peut-être difficile à trouver, mais ça reste que ces choses-là, des fois, tu retombes dessus, puis c'est pas éphémère, c'est aussi fort, c'est puissant.
Sauf que quand tu fais de la recherche, Marc, en rédaction, par exemple, comme par exemple, moi, je fais... alors, il y a des trucs que je cherche, puis c'est un peu comme des chimères, tu sais. Et là, je contacte, par exemple, pour ne pas le nommer, Richard Suicide. Puis Richard me dit « Ah, non, j'ai pas ça. » Henriette Valium, Patrick, il y a plein de trucs qu'il n'y avait pas. Moi, je me souviens d'avoir remis des trucs à Patrick, à Henriette Valium, de trucs qu'il n'y avait pas. Je disais, hey, j'ai trouvé ça, je te le donne, ça te revient de droit.
Mais dans ce cas-là, tu viens me voir, parce que moi, je les ai toutes, les Richard Suicide. Je sais que lui, il me dit qu'il les avait toutes données, il n'y en avait plus.
Mais alors, est-ce que tu veux donner tes coordonnées à tout le monde qui écoute l'émission?
Non, juste à certaines personnes, comme les deux personnes qui se présentent.
mais c'est ça la beauté, donc, de Zine de Zine. C'est que c'est l'idée de fédérer, c'est un pôle, c'est de trouver un point de rencontre. Et moi, je trouve ça beau. Et moi, j'ai découvert ça dernièrement, on en parlait hors micro. Quand je suis tombé sur cette publication-là, j'ai trouvé ça formidable. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai manqué le coche? Comment ça, je l'apprends là? Bon, le libraire a fait son travail, tant mieux, mais j'étais triste d'avoir raté les numéros précédents. Je me suis dit, mais c'est formidable comme initiative, et que ce soit en papier, et c'est un bel objet aussi. Il y a tout... Il y a aussi ça, cette tradition-là d'usine, c'est le papier,
Oui, un amour de l'objet, tu sais. Puis je pense que c'est une pratique artistique, ça, qui date de loin, qui date des surréalistes, qui date d'avant ça. Dès qu'on a pu faire des publications, bien, il y a ça qui fait, puis une attention à la beauté du projet. Comment tu le fais, tout ça? Parce que les zines de zine, les couvertures sont toutes sérigraphiées.
Il y en a une qu'on n'a pas fait sérigraphier, parce qu'on était avec le Pieux à Québec, puis... il y avait des machines qu'on voulait, on avait envie d'essayer. On a fait un pochoir à la canette puis on a imprimé par-dessus à...
Mais déjà à la main, tu sais, c'est fou, là. Mais comme le dernier numéro, la couverture est vraiment belle, là, tu sais. En tout cas, beau travail au niveau de la sérigraphie.
Oui, c'est ça. Ben, d'ailleurs, toute la partie autres. Moi, je m'occupe du contenu rédactionnel. Je suis comme rédacteur en chef. Bon, il y a aussi Jess qui est à la coop Couturif, puis qui est aussi à la maison d'édition Neux, qui s'occupe de la partie plus mise en page, visuelle. C'est elle qui fait la sérigraphie, les couvertures et tout. Ben, on les fait ensemble, mais disons, c'est elle.
Okay.
Moi, je ne sais rien faire de mes mains. Elle, okay. Elle fait toute la partie comme pratico-pratique de mise en zine, disons. Là.
Puis, on peut dire aussi que c'est vous deux qui avez initié le fait d'avoir des zines au Salon du Livre de Montréal, qui est fantastique.
C'est d'ailleurs, c'est surtout Jess plus que
okay.
moi. Ouais, c'est ça.
Mais c'est ça. Bravo à Jess, ouais. Parce que pour moi, c'est un geste de vie, d'être dans un lieu commercial du livre, mais à côté des choses faites à la main, des petits tirages.
Ouais.
Moi, je trouve ça, bon, c'est une évolution qui était due. Comme les avoir à la Grande Bibliothèque, là, c'est comme, enfin, ça a pris du temps, là,
oui,
tu sais.
Mais ça, d'ailleurs, dès le début, avec Zine de Zine, on a collaboré avec des bibliothécaires. Les deux premiers numéros, c'est des entretiens qu'on a fait avec des bibliothécaires de BNQ, donc, puis aussi avec une bibliothécaire qui travaille dans une bibliothèque à Montréal, à la bibliothèque Pontrac. Puis en gros, ça arrive à peu près en même temps, le Zine de Zine, la collection à la Grande Bibliothèque de Zine qu'on peut emprunter, puis il y a aussi dans la collection de la bibliothèque, la collection national à BNQ, donc les livres qu'on peut consulter sur place mais qu'on ne peut pas emprunter. Il y a aussi un regain d'intérêt là, pour les zines dans leur collection. Tout ça arrive à peu près en même temps. Puis ce qui est arrivé aussi, c'est que assez rapidement, parmi les gens qui se sont abonnés à Zine de Zine, il y a des bibliothécaires.
Okay.
En ce moment, il y a des bibliothèques universitaires qui sont abonnées, il y a des bibliothèques publiques qui sont abonnées. Donc, pour les bibliothécaires, le travail qu'on fait, c'est vraiment intéressant, dans le sens que ça leur permet... Parce qu'on fait
essentiel.
Oui, essentiel. C'est ça, parce qu'on fait des critiques de zines, mais aussi on indique dans quelle librairie on peut les trouver, parce que les bibliothèques, la plupart du temps, sont contraintes d'acheter dans des librairies agréées.
Oui, oui, ça aussi, c'est un frein. Oui,
évidemment. C'est un problème pour l'acquisition de zines, mais aussi... donc, où est-ce qu'on peut les trouver, etc. Donc, vraiment, entre autres, dans des librairies comme Planète BD ou le Yélian, qui passent par Zine de Zine pour après faire des commandes de zines qui sont disponibles dans Zine de Zine pour pouvoir les avoir dans la collection.
Ben, vous êtes enfin la relève. Fait que je te lève mon caput, mon expresso, tu sais, yes. Mais, OK, Isabeau, on est à Angoulême.
Oui,
voilà. Qu'est-ce qui t'attire? OK, pourquoi Angoulême? C'est ta première fois, c'est ça?
La première fois Angoulême, oui.
OK, puis tantôt, on a marché dans le Nouveau Monde qui sont en train de faire les kiosques. Les gens se préparent pour l'ouverture demain. Puis là, tu me parlais de plein d'éditeurs. Déjà, t'en connais plein. C'est incroyable. T'en connais, ben, tu sais, avant, j'en connaissais beaucoup, mais tu me dépasses tellement, là. Fait que toi, tu viens ici, tu vas repartir avec tes bagages pleins de publications. Fait que parle-moi un petit peu de ton... Pourquoi t'es ici, puis c'est-tu le fun? T'es-tu content?
Ben, je suis content d'être ici. C'est intéressant à voir. Moi, dans le cadre de ma recherche pour le doctorat, j'ai fait un terrain d'études en France pendant 4 à 6 mois. Là, je ne me souviens plus exactement parce que j'ai fait des allers-retours aussi là-dessus. Donc, j'ai fait une dizaine de festivals de zines en étant ici, à travers la France, puis un peu aussi en Belgique. Donc, j'ai rencontré pas mal de gens. C'est en 2022 quand je suis venu pour faire ça. Donc, il y a des gens que je viens retrouver ici. Mais dans un contexte qui est assez différent, parce que moi, c'est des gens que j'ai rencontrés dans des festivals ou des foires ou des salons qui étaient réservés aux zines. Là, ici, il y a vraiment de tout. Tu sais, on a vraiment toute la chaîne.
Toute la gamme.
Du top.
Ici, c'est une foire commerciale.
C'est une foire commerciale.
Ouais.
Mais toutes les foires de zines sont aussi des foires commerciales, mais à une autre échelle. T'sais.
Oui, c'est une question d'échelle au final.
Il y a des maisons d'édition milliardaires avec des.
Des artistes pauvres.
Oui, c'est ça, des CEO millionnaires qui travaillent pour des compagnies milliardaires qui ils se côtoient pas tant que ça parce que c'est un espace séparé à travers la ville, mais en tout cas qui sont dans le même festival, dans la même programmation, qu'il y a vraiment des gens qui font des tout petits zines à des tout petits tirages. Donc, ça, c'est intéressant de voir un peu ce contexte se mettre en place.
Mais c'est important pour toi, donc, d'être sur le terrain.
Ah, mais toujours, mais forcément.
Parce que le fanzine, c'est quand même un objet physique et... Ouais.
Mais c'est pas possible autrement. Parce que moi, je le fais, le travail avec Zine de Zine, mais s'il n'y avait pas ce travail-là, de toute façon, comment on fait pour savoir qu'est-ce qui se publie? Il n'y a pas d'autre manière que d'aller dans les festivals, d'aller rencontrer les gens.
comme quoi l'Internet 2.0 ne règle pas tout. Tu sais, au niveau des artistes en bande dessinée, ça a vraiment été une révolution dans les années 2000 quand tout à coup, les artistes n'envoyaient plus...
90, pas 2000.
Ouais, non, attends, mais je vais finir. Parce que les planches, avant, on les envoyait en Europe ou aux États-Unis, on envoyait les planches physiques. Maintenant, avec la numérisation, c'est possible de... Je prends François Miville-Deschênes, un artiste qui travaille pour le compte d'éditeurs européens comme le Lombard. Lui, il vit à Maria. Il envoie ses planches par numérique, par courriel, où il dépose dans un nuage info numérique. Et donc, il n'a pas besoin physiquement de se déplacer. Mais dans le cas du zine, sa nature intrinsèque même, je trouve que le zine, c'est un objet de résistance parce que ça nous pousse à rester en contact.
Oui, il y a un peu de ça. Les gens qui font affaire avec des éditeurs au sens conventionnel, ils vont se servir du numérique pour la production des livres.
Ouais.
Tu disais envoyer des planches et tout. Mais après, ils s'appuient sur un système de distribution qui est très, très physique.
Ah, ben oui,
que
forcément.
Les livres puissent circuler dans l'époque.
Ouais.
Puis après, ils vont aussi se servir du numérique pour faire la diffusion. Dans le cas des zines, c'est plus la diffusion qui est assurée par le numérique, même s'il y a des gens qui ont des boutiques en ligne puis qu'il y a encore un petit peu d'échange qui se fait par la poste. L'essentiel des ventes de zines se fait dans des festivals en personne. Donc, le numérique, on le retrouve pour la diffusion, mais comme les gens s'auto-éditent, ben, dans le processus de production, le numérique joue un très petit rôle. Ça va être vraiment un appoint pour le dessin. Il y a des gens qui vont faire l'édition, la mise en page, avec un ordinateur, mais sinon, l'essentiel se fait physiquement dans la rencontre avec les gens. L'idée étant d'avoir un nombre d'intermédiaires le plus limité possible entre les gens qui font des zines et les gens qui les lisent. C'est ça ce qui est intéressant, parce que quand on retourne justement dans les années 90-2000, il y avait une espèce d'idée que la publication en ligne allait remplacer la publication papier.
Oui.
Ce qu'on voit en fait, en tout cas du point de vue des zines, c'est que la communication en ligne permet de mieux diffuser la publication papier, puis ça crée un regain d'intérêt pour la dimension physique, matérielle, l'objet zine ou livre. Donc, qui est beaucoup plus investi par les artistes. Il y a moins de zines qui servent à faire de la communication. T'sais, dans ce sens-là, zine de zine, c'est un peu un exercice de nostalgie. C'est pas un type de zine. C'est un type de zine qui fait référence au passé. Sa pertinence en tant que moyen de communication papier. Si on voulait aller rejoindre le plus grand public possible, on ferait ça en ligne. Mais on fait en zine parce qu'on veut que ça circule dans ce milieu-là.
Oui.
Mais même le milieu des zines communique essentiellement en ligne. Il n'y a pas beaucoup de gens qui publient du contenu rédactionnel.
Oui, puis l'époque où Julie Doucet, par exemple, envoyait à Jean-Christophe Menu par la poste correspondance lettre écrite avec des exemplaires, c'est quand même une époque qui est révolue.
Ben, ça se fait encore, mais c'est des échanges.
Oui, c'est ça.
C'est de l'interpersonnel rendu là.
Oui.
Mais pour avoir les dernières publications de Julie Doucet, il n'y a pas d'autre manière que de communiquer avec elle puis de les recevoir par la poste quand elle est faite les envoyer. T'sais.
C'est bien aussi parce que, puis corrige-moi si je me trompe, Marc, mais ça permet à toute une nouvelle génération, puis je veux t'entendre là-dessus parce que tu as enseigné à l'Université du Québec en Outaouais pendant des années, et tu as enseigné à des jeunes ce que nous ne sommes plus, Marc. Ne nous berçons pas d'illusions.
Dans le cœur,
évidemment. Mais il y a toute une nouvelle génération de jeunes autrices, auteurs, dont le rapport au zine, le fait d'avoir entre les mains un zine de zine, il y a quelque chose... Tu sais, nous, on parle de nostalgie, mais pour eux, c'est novateur d'une certaine manière.
Mais, OK, tu parles d'enseignement. Moi, ça a tout le temps été dans ma pratique d'enseigner, de leur montrer comment faire des publications, comme Isabeau disait, avec l'ordinateur, pour être indépendant, pour pouvoir s'auto-publier. Moi, c'est important, c'est parce que je viens de ça. Ça donne une voix, ça donne une identité, une présence, puis ça te distingue parce que tu as fait quelque chose toi-même. Puis en même temps, c'est un moyen d'expression personnelle. Fait que tu mets tes histoires, c'est toi qui parle au lecteur. Fait que ça a tout un... Puis j'en vois qui continuent, comme Blanche, comme Jacob Doyon, tout ça. Puis plein d'autres. Puis je trouve ça, moi, ça me fait chaud au cœur. C'est parce que c'est une façon aussi d'apprendre le métier, d'apprendre à raconter. Puis en dehors des trucs, parce que des fois, si tu comptes ces subventions, tu vas attendre longtemps. Fait que c'est, l'idée, c'est pas attendre, puis les faire.
Mais je pense aussi, puis corrige-moi si je me trompe, Isabeau, mais c'est aussi d'apprendre le métier et les différentes chaînes du maillon. de la fabrication d'un objet, d'un livre. Quand on travaille pour un éditeur, on signe un contrat, on a une entente, on envoie notre travail, mais quand le zine, il faut le fabriquer. Tu disais tantôt que tu n'es pas très habile de tes mains, que c'est ta collègue, mais c'est ça. Donc, c'est ça que je trouve beau avec le fanzine. Pour moi, c'est l'objet suprême, c'est l'objet total. Dans sa totalité, t'as l'expérience totale de l'édition.
On peut-tu parler de sensualité?
Oui.
Parce que moi, c'est le toucher. Parce que regarder des PDF, moi, je suis pas capable. Je lire ça, là, je le fais, mais j'évite ça. Mais prendre un objet, un zine, le toucher, le feuilleter, ceux qui se déplient, qui ont l'imagination pour créer quelque chose de totalement nouveau, ça passe par le toucher, ça passe par les yeux. Pour moi, il y a quelque chose de sensuel, de vivant. C'est ça que j'adore.
Ben d'ailleurs, le plus récent Colosse de Jimmy Beaulieu, La rivière du lit, c'est les couleurs, c'est magnifique, les masses de noir. Tu sais, qu'on soit arrivé aussi au niveau technologique à une qualité d'impression à ce point, ben après, c'est un choix de se dire, est-ce que je dépends d'un éditeur ou j'investis de mon propre argent et de mon propre temps et je fais le livre et je me donne les moyens de créer un objet à la mesure de mes attentes.
Mais ça, c'est classique dans sa forme encore. Ouais. Moi, je pense à Margot Bijoux, que j'ai découvert à TICAF, que elle, tu prends une page, pour lire ton histoire, tu déplies une page. Dans la page que tu déplies, il y a une autre page que tu déplies. Ça se tourne dans la droite, ça se tourne à gauche. Ouais. Juste la fabrication à la main, c'est incroyable comment tu mets d'heures, d'amour. Puis il y a A.G. Pratt aussi qui a fait des trucs incroyables que tu déplies. Et puis ça c'est comme du Valium, moi, pop-up. C'est une histoire que tu lis en pop-up, c'est... Moi, quand je vois ça, là, c'est comme, aïe, aïe, je tombe sur le cul, comment les gens aiment, ils ont de l'amour, puis ils veulent les faire, puis ils mettent du temps, de l'imagination, de la créativité, que tu vas pas ça. Puis c'est, fait que c'est différent. Jimmy, c'est au niveau de la mise en page, de la couleur, de l'harmonisation des pages, mais tu peux aller beaucoup plus loin dans la construction d'un objet narratif.
Oui,
tu sais, fait que ça.
Des manipulations.
Ouais.
Il y a plein de zines qui sont imprimées en sérigraphie ou en réseau avec trop d'encre.
Ouais.
Tâche les doigts.
Ouais. Mais c'est ça, c'est le toucher encore, c'est l'interaction avec l'objet. Puis c'est ça, c'est wow, c'est comme ça revient à quelque chose qui s'éloigne de l'espèce d'Internet où que on touche plus rien, on revient à quelque chose. Puis moi, c'est important ça.
Ouais.
Isabeau, zine de zine, on peut se le procurer où? Tu parlais tantôt de certaines librairies indépendantes. Il y a une possibilité aussi de s'abonner.
Oui, on prend des abonnements. On a une boutique en ligne sur Square, zine de zine Montréal, zine de zine MTL sur Square. Puis sinon, on peut nous écrire. Là. On a des comptes sur Facebook, Instagram. Je pense qu'on a un Blue Sky, mais je suis pas certain. Ça s'en vient.
Ben, c'est la période, hein?
Ouais, c'est ça. On est comme dans une période de transition avec les réseaux sociaux, de l'inflation. Mais en ligne ou dans des librairies, on est distribué dans plusieurs librairies à Montréal, à Québec, à Sherbrooke aussi, il me semble.
Oui, il y a aussi, c'est ça, par le biais de librairies indépendantes très impliquées, en fait.
Ça, c'est un projet sur lequel on travaille actuellement. C'est dans Zine de Zine, on fait des listes de lieux de distribution. Donc, chaque critique de Zine est accompagnée des lieux où est-ce qu'on peut les trouver. Ce qui fait qu'on accumule une liste de lieux de distribution de Zine au Québec qui devient de plus en plus grande, de plus en plus détaillée. Et puis là, on a commencé à travailler sur des cartes. Fait que là, depuis le troisième numéro, il y a une carte
des lieux de distribution. Oui, très juste, j'ai vu.
Dans le Zine. Puis là, on est en ce moment en train de travailler avec une amie qui étudie en géographie puis qui va avec qui on fait une carte qui va être plus facile à consulter, plus facile à enrichir au fil du temps. Donc l'idée c'est aussi de faire une carte des lieux les lieux de rassemblement, les lieux de distribution où est-ce qu'on peut trouver des zines au Québec.
Mais en tout cas, Isabeau, félicitations, bravo, c'est une initiative comme je te dis, moi je vous ai découvert par hasard et j'ai été vraiment charmé, heureux et c'est un travail important que vous faites et donc j'incite les auditrices et les auditeurs à joindre l'effort de guerre et à vous côtoyer parce que c'est un monde qui s'ouvre à eux. Et donc, bravo, merci beaucoup de faire ce travail.
Ouais, merci, Isabeau. C'est tout le temps le fun de te voir puis j'ose avec toi. Puis lâche pas, là. Je suis avec toi.
et bon réseautage à Angoulême.
Merci.
Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre notre couverture du Festival Angoulême édition 2025, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca / tribune au pluriel / catégorie au pluriel, /Angoulême-2025. Certes, c'est long, mais ça vaut le coup.